Un jour, on pourra lire dans mon matériel génétique, comme dans un livre ouvert. Et on y verra toutes mes faiblesses. Et on pourra me soigner. C'est un peu ça, la médecine personnalisée. D'ailleurs, ça commence déjà. C'est chouette, non? Ou peut-être pas. Si on lit dans mes gènes, on y verrait tous mes petits secrets, toutes mes tares, tous ces détails qui n'appartiennent qu'à moi. La médecine personnalisée, c'est dangereux.
Disons qu'avant de parler de danger, ce serait plus positif de parler de tout ce qu'elle peut apporter, de tout ce qu'elle peut vous apporter. Par contre, c'est au niveau de la société qu'elle pose quand même un certain nombre de questions. Et à partir du moment où il y a certains choix de société à faire, ça veut dire qu'au niveau de l'individu, on peut aussi être impacté par cette médecine.
Bienvenue dans Microsciences. Microsciences, un podcast de la RTS. Béatrice Devergne est biologiste et médecin. Elle est également professeure honoraire à l'Université de Lausanne, autrice également du livre « La médecine personnalisée » paru aux éditions Savoir Suisse des presses polytechniques et universitaires romandes. Alors, cette médecine personnalisée, c'est quoi au juste?
Le plus simple, c'est de la définir avec ce qu'on appelle les 4 P. Elle est en premier lieu précise et donc personnalisée. Ensuite, le deuxième P, c'est celui de la prédiction. Parce que si on connaît tous les facteurs qui sont susceptibles de provoquer une maladie, alors on va pouvoir anticiper l'apparition de cette maladie chez les personnes en fonction des caractéristiques qu'ils portent. Et si on fait une prédiction, c'est pour pouvoir faire de la prévention, parce que c'est là aussi où sera tout le bénéfice de cette prédiction. Et puis le quatrième P, qui est pas négligeable, c'est le P de participative. Ça veut dire aussi que la personne doit aussi pouvoir participer au choix thérapeutique et au suivi qui sera fait.
4 P pour précise, prédictive, préventive et participative. Moi, ça m'évoque 2 P de plus, celui des promesses et celui des préoccupations. Alors on va décortiquer tous ces P et mettre aussi quelques points sur les I. Reprenons. Le B.A.B.A. de la médecine personnalisée, c'est mon code génétique, mon ADN. Indéniablement, les progrès dans le séquençage révèlent, en quelque sorte, tout ce qui m'attend d'un point de vue médical. Ok, peut-être pas tout, mais quand même. S'il y a bien quelque chose qui m'est personnel, c'est mon ADN.
Notre molécule d'ADN, elle est formée de 3,2 milliards de petites molécules qui sont enchaînées les unes aux autres. Sur ces 3,2 milliards de petites molécules, en fait, on a des différences entre vous et moi, et c'est de l'ordre de 4 millions. Sur ces 4 millions, il y a des différences qui vont expliquer que les cellules vont fonctionner un peu différemment et vont donner une propension à développer une maladie ou pas.
Certains passages dans mon ADN sont donc la signature d'un dysfonctionnement présent ou futur. Mais ce ne sont pas n'importe quelle maladie que je peux lire dans mon ADN.
Les premières, c'est peut-être les maladies rares. 80% des maladies rares sont en fait dues à un ou deux maximum modifications ou altérations génétiques. Comme c'est dû à une seule variation, on peut arriver à l'identifier chez tous les patients qui ont la même maladie. On va pouvoir identifier ce gène qui est affecté et qui donc explique le développement de la maladie.
Mais il y a aussi des maladies plus fréquentes.
Dans les cancers, il y a deux aspects. D'une part, il y a quelques rares cas. C'est de loin pas les cas de cancer les plus fréquents. Il y a une composante héréditaire, une composante génétique. C'est-à-dire que l'individu porte en lui un de ses gènes est modifié et qui fait qu'il va avoir un grand risque de développer des cancers. C'était par exemple le cas d'Angelina Jolie avec le gène BRCA1. On sait que s'il porte certaines mutations, le risque de cancer du sein était extrêmement élevé.
En effet, Angelina Jolie avait un risque de 87% de souffrir d'un cancer du sein en raison d'un gène hérité par sa mère, morte de ce type de cancer. Selon l'actrice, cette mastectomie a réduit son risque de développer un cancer du sein à 5%, soit autant que les autres femmes. Par la suite, elle décidera de procéder à une ablation de ses ovaires en raison d'un risque de 50%. On y reviendra, à cette notion de risque. Mais il existe aussi des cancers qui ne dépendent pas que de mes gènes.
Le cancer, en fait, est une maladie dans laquelle les cellules développent de très nombreuses mutations génétiques. Elles accumulent au fur et à mesure des mutations génétiques et ces mutations, en fait, leur permettent d'échapper au contrôle de l'organisme. Ce qui fait qu'en échappant au contrôle, elles se développent, elles se multiplient, elles créent des métastases et elles finissent par tuer le patient. Donc, ce qui se passe maintenant avec la médecine personnalisée, c'est qu'on peut identifier pour chaque tumeur son profil génétique particulier. Et on peut développer des traitements qui vont être ciblés sur ces modifications génétiques qu'on observe. Alors, il y a les traitements ciblés, il y a aussi l'immunothérapie qui se sert de certaines particularités personnelles de cette tumeur. Et donc là, je pense que c'est un des domaines dans lequel il y a vraiment un énorme plus pour la médecine.
C'est une promesse intéressante, des traitements personnalisés. Mais peut-être aussi des réactions personnalisées à ces traitements.
C'est ce qu'on appelle la pharmacogénétique. La pharmacogénétique, en fait, elle a existé avant la médecine personnalisée. On savait qu'il y avait une composante héréditaire dans le fait que certains médicaments vont être utilisés par l'organisme de façon différente selon certaines particularités génétiques. Ce qui fait que pour ces médicaments-là, eh bien chez certains patients, le médicament va devenir très facilement toxique.
Ce qui explique certaines allergies ou une efficacité variable selon les personnes face à certains médicaments.
La codéine est un des exemples. La codéine était utilisée beaucoup comme sirop contre la toux, mais en fait, il était surtout aussi utilisé comme antidouleur. Et puis, le problème, c'est que cette codéine, elle n'a pas de pouvoir antidouleur en soi, mais dans le foie, elle est transformée en morphine. Et c'est donc par ce biais-là qu'elle a cette activité antidouleur. Et dans certains cas, le gène, il est multiplié. En fait, il existe en 3 exemplaires au lieu de 2. Le résultat, c'est qu'il est beaucoup plus actif. Et pour la même dose de codéine, chez ces patients, ils vont avoir un dosage de morphine beaucoup plus important. Et le résultat, c'est qu'on arrive à des taux qui peuvent éventuellement être létaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent tuer. Et c'était vrai, particulièrement chez les très jeunes patients. C'est pour ça que maintenant, on a interdit l'utilisation de la codéine chez les jeunes enfants pour éviter tout risque de ce style-là. Mais vous voyez, ce lien entre notre profil génétique et puis le métabolisme des médicaments se retrouve sur un certain nombre de médicaments et puis ça pourrait être une avancée qui a un petit peu de mal à se mettre en place. Pour l'instant, ce n'est pas encore dans la routine d'aller chercher quelles sont les altérations qui pourraient modifier le devenir de tel médicament chez cette personne-là pour essayer de limiter les risques secondaires.
Si les promesses de la médecine personnalisée dans le domaine des traitements, du cancer et des maladies rares sont inspirantes pour la recherche, toutes les maladies ne sont pas pour autant liées à nos gènes.
Il y a certaines maladies qui définitivement ne sont pas causées par nos gènes. Les plus caricaturales, c'est les infections. Si vous attrapez la grippe ou si vous avez un rhume, comme je l'ai actuellement, c'est parce que vous avez été en contact avec un virus qui a profité de l'opportunité pour se développer. Si on essaye de voir les deux extrêmes, donc il y a ces maladies qui ne sont pas du tout causées par les gènes, puis il y a les maladies qui ne sont causées que par les gènes. Puis entre les deux, eh bien, on a ce mélange où il y a une partie qui est liée aux gènes, puis une partie qui est liée à autre chose qu'on appelle globalement l'environnement.
Et c'est là où ça se complique. C'est vaste, l'environnement.
Dans le contexte de la médecine personnalisée, ce qu'on appelle l'environnement, c'est tout ce qui n'est pas génétique. Alors, ça fait beaucoup de choses, c'est-à-dire que ça comprend la vie fœtale, c'est-à-dire que comment la grossesse s'est passée, quel était l'environnement dans lequel cette vie fœtale s'est déroulée, qui va laisser des traces dans votre organisme, alors des traces positives, mais aussi des traces peut-être pas si positif que ça. Et puis, après, pendant toute la durée de votre vie, jusqu'à la mort, vous allez accumuler des expériences liées à l'environnement qui sont l'air que vous respirez, l'activité professionnelle que vous avez, le stress dans lequel vous vivez, la façon dont vous vous alimentez, est-ce que vous fumez, est-ce que vous ne fumez pas. Il y a aussi simplement l'environnement socio-économique. Il y a des travaux qui montrent que certaines maladies, on va les trouver dans certains quartiers de certaines villes à une proportion beaucoup plus importante que dans un quartier voisin. Il y a une intrication de facteurs socio-économiques, de facteurs physiques, de facteurs chimiques et qui font que cet environnement est très complexe.
Je vous le disais, c'est compliqué. Déjà que je ne suis pas responsable des gènes dont j'ai hérité, je suis encore moins responsable d'une majeure partie de mon environnement. Alors comment fait-on la part des choses entre l'environnement et mes gènes ?
C'est peut-être là où on pourra faire quelques progrès. Dans certaines maladies, la causalité, c'est-à-dire le fait qu'elles soient déclenchées, est un mixte de profils génétiques et de facteurs environnementaux. On sait que s'il y a une épidémie aujourd'hui de diabète de type 2, épidémie absolument mondiale, c'est pas parce qu'en l'espace d'une génération, on a eu des profils génétiques qui ont changé. C'est parce qu'en l'espace d'une génération, c'est tout notre comportement, et notamment notre comportement alimentaire et d'activité physique qui a changé.
Et je suppose que le diabète n'est qu'un exemple parmi d'autres.
Quasiment 80% des maladies qui sont traités par le médecin généraliste, sont ces maladies complexes dans lesquelles c'est une intrication de profils génétiques et de facteurs environnementaux. Et la part du génétique est quelquefois très congrue. Quand je parle de maladies complexes, c'est un mot un peu savant pour parler simplement du diabète, des maladies cardiovasculaires, des maladies neurodégénératives, comme l'Alzheimer par exemple. Donc, dans certaines de ces maladies, notamment, je pense à l'Alzheimer, on commence à identifier certains groupes qui sont beaucoup plus à risque à cause de leur profil génétique. Mais ce n'est pas parce qu'ils vont avoir un risque plus important qu'ils vont développer cette maladie. Mais le reste de la causalité, il faudra qu'on la trouve ailleurs et pour l'instant, on ne sait pas où.
Mais pour le coup, la prédiction, c'est compliqué.
On s'aperçoit qu'une des difficultés de pouvoir juger de l'importance du profil génétique, c'est que ce n'est pas un gène qui cause. Alors on essaye d'identifier sur peut-être 10, 20, mais ça peut être aussi sur 100 gènes, est-ce que la combinaison présente pose un risque plus important ou pas. Donc ça, c'est le score polygénique. Et on fait un petit peu de progrès dans ce sens, notamment dans le diabète et dans certaines maladies cardiovasculaires.
Moi, ça me fait penser à un truc. Ah oui, au tirage du tarot.
C'est une approche aussi qui est vraiment dans le futur. On a encore tout un énorme chantier en cours à ce sujet-là. C'est d'identifier dans l'organisme les traces qu'ont laissées tous ces stress physiques et environnementaux pour pouvoir dire, voilà, cette notion-là, c'est ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire que c'est une façon d'avoir une sorte de panoplie de toutes les traces que porte votre organisme sur ce à quoi vous avez été exposé. Alors ça, c'est vraiment des travaux en cours. C'est pas utilisable encore aujourd'hui.
Il y a quand même un truc qui m'embête, moi, dans cette notion de prédiction. On parle de risque. Un risque, ça ne veut pas pour autant dire que je vais développer une maladie.
Si je vous dis que vous avez 3 fois plus de risque que votre voisin de faire une maladie cardiovasculaire, ça veut dire quoi ? Ça ne va rien vous dire. Parce que si votre voisin il a un risque sur 1000 et que vous avez 3 risques sur 1000, lorsqu'on parle d'un risque, on est obligé de l'exprimer de plusieurs façons pour être sûr qu'on se fait comprendre.
Donc là, c'est un risque relatif vis-à-vis de mon voisin.
Maintenant, admettons qu'on vous a bien expliqué et que vous savez, ok, finalement, d'après toutes les données que le médecin a pu collecter, 25% de risque de faire une maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que vous en faites ?
Je panique.
Voilà. La première chose, c'est que 25%, ça veut dire quoi en termes de certitude et d'incertitude ? En fait, quand on parle de risque, le mot associé au risque, c'est l'incertitude. Ce n'est pas la certitude, bien au contraire. Donc, cette incertitude, comment est-ce que vous la vivez ? Est-ce que vous allez la voir comme une épée de Damoclès ? Est-ce que vous allez la voir? Est-ce que vous allez peser la balance en disant 25%? Bon, ben finalement, ça me laisse 75% de chances de ne pas la voir. Et en fait, je pense que de jour après jour, on ne sait pas quoi en faire.
Ok, pour Alzheimer, je ne peux que tenter de reculer le délai et prendre mes dispositions pour le futur. Et je dois attendre les progrès de la médecine. Mais il doit bien y avoir des maladies pour lesquelles je peux faire quelque chose maintenant.
Maintenant, si on a la même notion de risque, mais pour un diabète, c'est évident que les mesures de prévention, eh ben voilà, on les connaît. C'est arriver à gérer son alimentation, arriver à faire de l'activité physique, arriver à avoir ce qu'on appelle une vie saine, entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis ça, est-ce qu'on a besoin d'avoir un risque chiffré pour rentrer dans cette attitude?
En effet, parce que ce n'est pas hyper personnalisé comme conseil, docteur.
C'est un peu le pari de la médecine personnalisée, qui se dit, mais d'accord, on n'a pas de prévention personnalisé aujourd'hui par rapport à un profil de risque génétique. On va pas avoir de prévention personnalisée pour le diabète. Donc on va devoir dire aux personnes les plus à risque, on va faire une prévention personnalisée en disant aux personnes, vous êtes beaucoup plus à risque que votre voisin. Il faut que vous agissiez sur votre comportement. Et puis l'idée, c'est de se dire que parce que c'est un dialogue en vis-à-vis et que c'est donc une injonction que vous recevez à titre personnel, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à comprendre l'intérêt de le faire et vous allez plus facilement le faire. Alors, c'est quand même contesté.
Ben oui, parce que cela reste abstrait tout cela, très général et très abstrait.
Et c'est là l'ambiguïté du mot participatif. On veut aussi rendre le patient responsable de sa santé. Mais le risque est là, en disant maintenant vous avez le devoir d'être en bonne santé parce qu'on vous a dit à vous personnellement qu'il fallait suivre les préceptes de bonne vie et si vous ne les suivez pas, c'est votre responsabilité si vous tombez malade, quoi, en gros.
Ma responsabilité, parce que les messages de santé publique sont clairs. Il faut que je prenne soin de moi.
Mais la santé publique, elle va au-delà de ça. Elle a aussi des outils, elle fait des enquêtes, elle cherche à identifier les facteurs de risque. Donc en fait, on veut responsabiliser le patient, mais pour l'instant, on ne cherche pas du tout à responsabiliser aussi les politiques. Quelque part, qu'ils s'impliquent, qu'ils soient participatifs pour cette médecine personnalisée.
En attendant, un jour, peut-être qu'une assurance ne voudra plus m'assurer parce que j'ai des gènes, un ADN et un environnement trop pourri.
Par rapport au profil génétique, il y a eu donc ce qu'on appelle un toilettage de la loi sur les analyses en génétique humaine. Il est dit, noir sur blanc, le principe « nul ne peut être discriminé en fonction de son patrimoine génétique ». Mais voilà, ça n'empêche pas que les assurances vie, on ne parle pas des assurances maladie, on ne parle pas des assurances obligatoires, les assurances vie, dans le cas où le contrat dépasse 400 000 francs de bénéfices, eh bien, elles sont en droit d'exiger de connaître tous les risques qui ont été identifiés à ce niveau-là.
Donc il faut faire une assurance vie avant de connaître ces risques.
Ça, c'est sûr. Alors il y a quand même des garde-fous. Ils disent dans la loi qu'il faut que le résultat soit fiable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à part les maladies rares, qui va décider que vraiment maintenant on a atteint un seuil de prédiction qui est vraiment très bien. Puis on ne parle toujours que de prédiction. Maintenant, si en plus on commence à mettre en jeu l'environnement, alors là la question est ouverte. Là, je pense qu'on est peut-être, une expression française qui dit qu'on peint le diable sur la muraille, c'est-à-dire qu'on est en train de voir que les choses catastrophiques, mais on est quand même aussi en devoir de les regarder en face et puis de se poser les questions.
Moi, je me demande si la médecine personnalisée est vraiment une médecine équitable.
On n'est pas égaux génétiquement, on n'est pas égaux à cause de notre environnement. Le premier défi, c'est le défi économique. Parce que cette médecine coûte vraiment, vraiment beaucoup plus cher. On voit les traitements pour les cancers qui atteignent des sommes faramineuses et tout. Et que la seule façon de pouvoir contrebalancer cette augmentation des coûts, c'est d'augmenter l'efficacité de la prévention. Donc si on met en avant la responsabilité individuelle qui est le cas de nos sociétés libérales, eh bien, force est de penser que il y a un risque que cette médecine personnalisée cherche à responsabiliser aussi le comportement jusqu'à des comportements très 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 personnels, quoi. Et puis, il faut qu'il y ait une vraie discussion ouverte sur qu'est-ce qu'on veut comme médecine. Il faut qu'on puisse anticiper. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions. Ces discussions deviennent de plus en plus audibles sur le fait que notre système de santé va dans le mur, qu'il va falloir qu'on y réfléchisse. Le problème avec la médecine personnalisée, c'est qu'aujourd'hui, on est encore en amont. C'est peut-être un petit peu prématuré comme discussion, mais en fait, moi, je pense qu'il faut, déjà commencer à en parler.
Bonbon. Peut-être qu'il vaudrait mieux débarrasser la population de tous les jeunes faibles, de tous les moches, et tant qu'à faire, de tous les gens pas sympas.
C'est une vision, à mon avis, trop caricaturale. Trop caricaturale, alors d'une part, parce qu'on peut espérer que des garde-fous se développeront dans la société, ça j'ai assez confiance dans l'humain pour ça. Puis c'est surtout que, pour pouvoir décider de ce qui est un bon gène et un mauvais gène, on est très loin du compte. Et puis, pour les maladies complexes, on devrait peut-être aller beaucoup plus s'intéresser à tout ce qui est environnement dans lequel on peut faire quelque chose et qui sera beaucoup plus efficace et qui sera beaucoup plus sociétalement équitable.
Me voilà rassurée.
Et puis, la diversité génétique, elle est essentielle à la survie de l'humanité, ça c'est sûr. Alors.
Pourquoi mon orteil me fait si mal quand je le cogne? Pourquoi je dors? Pourquoi je rêve? Qui a inventé la seconde? Pourquoi le glaçon flotte dans mon verre? Où est la lumière quand j'éteins ma lampe? Mon ficus essaie-t-il de me parler?
Cet épisode personnalisé vous a plu? Parlez-en autour de vous. Et abonnez-vous en personne sur une plateforme d'écoute, PlayRTS, Apple Podcasts, Spotify ou autre, c'est vous qui choisissez. Et si vous avez une question, l'adresse mail microscience@rts.ch vous attend. Microscience en un seul mot et au pluriel. C'est une équipe particulière qui rend ce podcast si spécial. Camille Dupont-Lahitte, coproductrice, très productive. Jérôme Nussbaum, habilleur musical, ultra préventif. Mathieu Ramsauer, à la réalisation, super précis. Andréa Glanville, attachée de production, très participative. Moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique qui vous prédit d'autres épisodes très bientôt. Au revoir.